Bonjour Monseigneur Alain Guélec.
Oui, bonjour Isabelle.
Vous
Bonjour à
êtes
tout le monde.
l'évêque de Montauban et nous nous retrouvons dans cette belle semaine de Pâques, appelée aussi Octave Pascal. Est-ce que ça voudrait dire que Pâques dure 8 jours, Monseigneur?
Effectivement, la liturgie de Pâques, pour le dimanche de Pâques plutôt, se prolonge, on va dire, tout au long de la semaine, qu'on appelle l'octave. Et donc, chaque jour est comme, un dimanche, on peut dire comme ça. La liturgie, d'ailleurs, prévoit le chant du Gloria, le chant, évidemment, de l'Alléluia. Donc, tout est un peu ce prolongement, si on peut dire, de ce qui est vécu, ce qui est célébré, la veillée pascale et le dimanche de Pâques.
Et pourquoi ce prolongement? Pourquoi a-t-on besoin de célébrer Pâques tous les jours pendant une semaine?
Eh bien, parce que la nouvelle est tellement extraordinaire qu'il faut du temps pour l'assimiler, pour la vivre, pour la célébrer. Voilà, c'est quelque chose qui nous entretient. Et puis alors, tout au long de cette semaine, bien sûr, on lit les évangiles qui nous racontent les apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples. Et le mercredi en particulier, on a ce texte bien connu, magnifique, des disciples d'Emmaüs, tout ce chemin qui se vit, et vous connaissez bien sûr Jésus qui apparaît, qui n'est pas encore reconnu et qui petit à petit se fait reconnaître. Et tous les évangiles de ces jours-là, justement, insistent là-dessus. Là, on n'est plus dans la connaissance du Jésus, on est dans la reconnaissance du ressuscité. C'est le même, et puis en même temps, il se donne à connaître, à voir, à découvrir et à reconnaître dans la foi. Il est le vivant, le ressuscité. Et donc, c'est tout ça qui est proclamé, célébré tout au long de cette semaine et même encore au-delà, puisque tout au long du temps pascal, nous sommes un peu dans cette mouvance au fond de cet événement du dimanche de Pâques.
Mais pourtant, cet événement du dimanche de Pâques, il n'est pas si évident à comprendre, parce qu'en fait, même si la résurrection du Christ est le mystère central de la foi chrétienne,
oui,
on n'a que des récits postérieurs. Qu'est-ce que ce décalage peut nous dire de notre foi?
Eh bien oui, bien sûr, ça on le dit, on le redit, il n'y avait pas de témoin direct de l'événement, personne n'était là pour prendre des notes sur l'événement lui-même. Et donc tous les évangiles nous le montrent justement, ça repose sur la foi des témoins. Marie-Madeleine, les apôtres, ils sont allés au tombeau, etc. Et donc la foi, elle se transmet ainsi elle prend appui sur le témoignage de ceux qui ont vu, qui ont été littéralement retournés, convertis par la présence du ressuscité. Prenons l'exemple de Thomas, un exemple un peu symptomatique. Il n'était pas là quand Jésus arrive, il a du mal à croire. Vous connaissez l'expression, si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Bon. Et on a ça d'ailleurs beaucoup dans les évangiles. Et on voit qu'il a fallu du temps, il a fallu la pédagogie de Jésus, il a fallu l'insistance, la patience, on va dire, de Jésus. Et donc ensuite, une fois qu'ils sont devant cette évidence qu'il est bien là devant eux, avec eux, qu'il est là, eh bien, ils sont témoins au sens où, vous savez, dans la Bible et dans les évangiles, les témoins ne sont pas simplement les témoins d'un événement extérieur. On rend témoignage de quelque chose que l'on a vu. Ils sont, on pourrait dire, pris dans l'événement, si vous voulez. Voilà, c'est-à-dire leur vie prend désormais un sens nouveau. Et tout ça nous conduit d'ailleurs à la Pentecôte, où tout va être manifesté, mis en lumière par le don de l'Esprit qui va les conforter, je dirais, les confirmer dans la foi naissante. Il faut le don de l'Esprit Saint, il faut la force d'en haut, il faut le souffle de Dieu pour les rendre de vrais témoins et, je dirais, inébranlables dans leur foi.
Non, je vous en prie. Et est-ce que c'est pour ça que finalement ce temps pascal dure 50 jours, donc plus longtemps que le carême, qui en dure 40, rappelons-le. Et est-ce qu'on peut finalement entretenir cette foi en la résurrection en demandant à l'Esprit-Saint de venir justement renforcer cette foi?
Oui, tout à fait. Alors voilà, comme vous l'avez dit justement, le carême nous prépare à Pâques, il ne faut pas oublier. Donc au fond, le carême, si on peut prendre les choses de manière plus large, commence le mercredi décembre. Et il se termine bien sûr le dimanche de Pâques, mais le carême n'est pas une fin en soi, comme on l'a souvent dit, il prépare Pâques, et Pâques nous conduit à la Pentecôte. Vous voyez, tout ça est lié, c'est comme un cheminement, et chacun, donc, à l'image des premiers disciples et des premiers croyants, chacun avance ainsi dans la reconnaissance. Et nous avons toujours à faire et, je dirais, à refaire ce chemin. Je crois que c'est important aussi de ne pas, pour tous les événements de la foi, c'est pareil, mais peut-être pour Pâques, c'est encore plus vrai, je dirais, nous habituer à une certaine routine. On dit, voilà, bon, Pâques qui revient, effectivement, comme le printemps qui revient, il y a un cycle, voilà. Mais à chaque fois, nous le vivons peut-être avec ce goût de la nouveauté aussi qui vient nous renouveler. Pâques, c'est aussi cette fête du renouveau. Et donc, nous avons tous besoin d'être ainsi renouvelés, réconfortés dans notre foi, qui, voilà, parfois prend des allures peut-être un peu tièdes. Hein, et donc, Pâques vient nous relancer un petit peu notre marche, au fond.
On remarque à travers ces différents récits d'apparition du ressuscité dont vous avez fait mention, Monseigneur Alain Gallec, on remarque cette joie des disciples. Comment cette joie pascale peut-elle perdurer au-delà de cette octave?
Ah bien, justement, la joie pascale, elle doit nous habiter tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce temps fort aussi, puisque la vie parfois se charge d'événements qui ne sont pas joyeux et le monde n'est pas autour de nous, n'est pas toujours joyeux. Mais nous avons besoin justement de venir nous ressourcer, dans nous retremper, je dirais au sens baptismal du terme, dans cet événement qui nous remet la joie au cœur, qui nous dit Dieu est avec nous, Jésus ressuscité est vivant, son esprit nous est donné, voilà quelque chose qui s'enracine dans notre cœur, c'est cette espérance qui vient de Dieu, comme cette espérance que la mort n'est pas la fin de tout, que la vie est promise à la résurrection, voilà. Tout cela, nous l'entendons, nous le réentendons, nous le célébrons. On a besoin ainsi de ces événements, de cette liturgie de pascale qui nous remet ainsi devant cette joie qui vient de Dieu.
Oui, parce que cette liturgie pascale, elle est assez déployée. Vous disiez que tous les jours de l'octave, on chantait le Gloria. Il y a aussi donc forcément cet Alléluia qu'on entend et qu'on chante à plusieurs reprises pendant la messe. Il y a le cierge pascal qui est allumé, la cuve baptismale qui est mise en valeur. Il y a des fleurs, de la musique. Et puis, il y a aussi ce Regina Caeli, cette prière particulière à la Vierge Marie qui est spécifique à ce temps pascal.
Oui, alors il y a des chants, bien sûr. Typiquement, je dirais, de Pâques, hein, et puis le Regina Caeli en est un, où effectivement on prie la Vierge Marie, qui est Marie au pied de la croix, Marie qui reçoit aussi avec les autres l'annonce de la résurrection de son Fils. Donc elle nous entretient aussi, elle nous aide et à vivre cette joie pascale, vous voyez. On a le témoignage de tous les saints, de tous les temps, de tous ceux qui ont donné leur vie pour le Christ. Et ont donné leur vie pour le Christ parce qu'ils croyaient que, nous croyons aussi, que le Christ est vivant. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui en Église s'enracine profondément dans cette conviction et donc dans cette joie, puisque si on reconnaît que Jésus était mort et qu'il est vivant, qu'il a fait ce passage de la mort à la vie, comment ne pas le recevoir dans la joie? Alors la joie, il faut bien s'entendre, c'est pas non plus l'exubérance, et puis c'est une joie qui peut...
Une joie profonde.
Qui est liée profonde et qui est liée à l'espérance. Hein. Voilà, il ne s'agit pas d'une joie qui est superficielle au sens, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui a besoin de nous habiter profondément. Vous voyez, la joie de l'Évangile, comme nous connaissons ce texte magnifique du pape François à l'époque.
Oui, c'est vrai. Vous parliez, Monseigneur, de ces apparitions de Jésus aux différents témoins, à Marie-Madeleine, à Thomas. Est-ce que écouter ces récits, les lire, les entendre pendant tous ces jours saints, c'est pas aussi une façon pour nous, chrétiens, de nous mettre un peu à l'école de ses apôtres, de ses disciples, et d'être un peu dans une attitude d'obéissance, d'humilité, en nous disant, bah oui, ils ont vécu ça, ils ont rencontré le Christ ressuscité, ils se sont laissés transformer, vous l'avez dit, hein, c'est pas juste être témoin d'un événement, mais c'est vraiment une transformation intérieure. Est-ce que c'est pas aussi une attitude pour nous, les chrétiens, à nous mettre à leur école?
Bien sûr. Notre foi, je veux dire, elle puise, elle s'enracine, elle se nourrit aussi de cette foi qui nous est transmise ainsi dans cette longue histoire, mais qui s'origine dans ces premiers témoins. Et puis nous-mêmes, nous avons bien sûr d'autres... Nous nous sommes aussi confortés, pas simplement par les témoins du passé, mais par des témoins d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est l'Église qui se réjouit de la joie pascale. C'est nos frères et sœurs... qui sont là avec nous, qui nous confortent aussi dans notre foi. C'est important aussi de... La foi n'est pas une aventure solitaire. Mmh. Chacun, bien sûr, est appelé à poser l'acte de foi, ne pas croire à la place d'un autre. Mais c'est aussi l'Église qui se rassemble. Et quand Jésus apparaît, les disciples sont rassemblés, il les conforte, il les fortifie. Et donc, notre foi, elle, elle se vit aussi, elle se nourrit de la foi de l'Église. Et donc, je crois que c'est important aussi. On le voit bien, les assemblées chrétiennes, les assemblées du dimanche. C'est ça qui nous conforte dans notre foi aussi.
Oui. Dans les apparitions du Christ ressuscité à ses apôtres, il y a aussi cet appel à la paix, hein, puisque quand Jésus apparaît, il dit « la paix soit avec vous ». Alors, évidemment, j'allais dire un message qui est encore plus prégnant aujourd'hui avec tous les conflits dans lesquels le monde est plongé. Qu'est-ce que ça vous suggère, Monseigneur ?
Eh bien, effectivement, comme vous le dites aujourd'hui, l'appel à la paix. Le pape Léon, d'ailleurs, je dirais quotidiennement, dans toutes ses interventions aujourd'hui, il a cet appel incessant à déposer les armes, à vivre, oui, le Christ. Celui qui fait la paix, celui qui unit, celui qui rassemble. Et donc, être habité par la foi au Christ, on ne peut qu'être des hommes ou des femmes de paix qui avons à annoncer et à transmettre la paix. Dieu est la paix, Dieu est du côté de la paix, comme disait le pape encore. Dieu n'est pas du côté des armes. Et on ne peut pas non plus invoquer Dieu en prenant les armes, vous voyez. Donc, effectivement, l'appel à la paix, le Christ lui-même, quand il dit la paix, c'est une salutation qui met leur cœur en paix aussi, puisqu'on peut imaginer les apôtres, les récits nous le montrent bien, après la mort et après la mort de Jésus, sans doute n'étaient-ils pas très en paix eux-mêmes, parce qu'il y avait eu des trahisons, il y avait eu un reniement, il y avait eu quand même l'abandon. Jésus est mort dans la solitude. Mmh. Et on peut imaginer, alors, entrer un peu dans ces dispositions, on peut dire, que leur cœur, et d'ailleurs Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Voilà. Et donc la présence de Jésus apporte aussi cette paix du cœur. Mmh. Vous voyez, on est en paix, le fruit de l'esprit est la paix. Donc vivre en Christ, vivre dans le Christ, je pense qu'on peut le vivre aussi nous-mêmes, dans des moments troublés. Se mettre devant le Seigneur, c'est recevoir aussi une parole de paix, de réconfort, puisque je crois que paix, réconfort, confiance, espérance, tout ça, c'est lié, bien sûr.
Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Oui, oui. Oui, donc ce n'est pas forcément parce qu'on vit une épreuve qu'on ne peut pas être en paix et dans la joie du Seigneur.
Oui. Alors oui, et puis dans les épreuves, eh bien, on peut aussi entendre cet appel à être pacifié par le Christ, apaisé par le Christ.
Oui, 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 tout à fait.
Ça, je crois qu'on le vit alors... On le vit, bien sûr, chacun le vit dans la situation qui est la sienne, mais on l'entend aussi aujourd'hui suffisamment dans les récits de conversion qui sont présents aujourd'hui, comment des gens trouvent la paix alors de multiples façons, en écoutant l'Évangile, en entrant dans une église, en participant à une célébration, en entendant le témoignage d'un autre chrétien, etc. Vous voyez, tout ça, la paix du Christ, elle vient de bien des manières.
Oui, bien sûr. En tout cas, on retiendra pour tout cet octave pascal et puis tous ces jours qui vont nous mener jusqu'à la Pentecôte, ces mots de paix, ces mots de joie. Je vous remercie beaucoup, Monseigneur Alain Guélec, de vos propos.
Bonne fête pascal à tous.
Merci. Et puis donc, nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour un nouveau rendez-vous avec vous, l'évêque de Montauban pour le diocèse de Montauban. Au revoir, Monseigneur.
Au revoir.